Il est 17h au studio Kalangou. Dans un instant, écoutez le journal en français en ma compagnie, Rafika Taher. À la une, le grand marathon du Ténéré a eu lieu dimanche dernier à Agadez. Près d'un millier d'athlètes ont participé à cette 4e édition. Le bilan de cet événement à suivre dans ce journal avec le promoteur. La Commission nationale des droits humains CNDH a présenté ce matin le bilan de l'état des droits de l'homme au Niger en 2022. Le président de l'institution revient ici sur les événements de Tamou survenus en octobre. Dès la partie magazine de ce soir, partons à la découverte du centre d'entraide des enfants déficients visuels de Gaya. Bonsoir à tous et bienvenue. À la mi-journée d'aujourd'hui, au 4e jour du championnat du sabre national d'IFA 2023, 16 lutteurs restent invaincus. Ainsi, Dosso à 4, Niamey 4, Maradi 3, Tawa 2, Tillaberi 1, Zender 1, Agadez 1 et Difa 0. Les trois lutteurs de Maradi, à savoir Aibo Hassan, Dalla Abani et Moussa Abdoulaye, sont toujours en lice pour le sabre national après avoir affronté Difa qui est éliminé depuis hier. La deuxième rencontre a opposé Agadez à Tillaberi. Elle s'est soldée par 5 victoires partout. Les deux lutteurs invaincus, à savoir Saleh Daouda d'Agadez et Anas Amadou de Tillaberi, restent dans la course. 815 athlètes hommes et femmes ont participé aux compétitions de la 4e édition du Grand Marathon du Ténéré le dimanche 25 décembre à Agadez. Pour Agdal Ouessane, promoteur de l'événement, ce fut un moment de satisfaction et une réussite pour cette édition 2022. On l'écoute au micro d'Anis et Karim.
On a eu 815 personnes. On a eu un doublé historique sur le vainqueur parce que c'est lui qui a remporté la 3e édition en 2019. Rabé a aussi remporté cette 4e édition. Donc deux fois vainqueur de ces deux marathons, 2019-2022. Dans la catégorie féminine, Benti, c'est une béninoise qui a remporté aussi en 2019 le premier marathon historique du pays et qui la remporte cette année aussi. Donc on a eu un doublé dans la catégorie masculine et féminine. Les mêmes personnes sont venues ici à Agadez et nous sommes contents qu'ils remportent ces prix. Ils sont à 500 000. Donc les deux prix de la catégorie homme-femme fait 1 million. Franchement, ça a été très bien de l'organisation, dans les détails techniques, sécurité et ça s'est passé sans incident. Vraiment, ça a été pour moi une réussite parce que c'est pour la première fois aussi que nous enregistrons un grand nombre d'athlètes. On a 815 personnes, donc cette initiative prend aussi de l'ampleur. Moi, personnellement, je suis satisfait.
Comme annoncé dans les titres, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a présenté ce matin à la presse son rapport d'exercice 2022 dans lequel il y a la mission d'investigation, de vérification et d'établissement des faits relatifs aux événements du 24 octobre 2022 dans la commune rurale de Tamou, département de Saï. Il ressort que 11 civils ont trouvé la mort et 25 blessés. Les détails avec Alhaj Mati Moussa, président de la CNDH, dans des propos recueillis par Assoumane Achina.
Les frappes aériennes sur un dépôt d'armes des groupes terroristes non loin du site de repaillage de Tamou dans l'après-midi du 24 octobre 2022 ont occasionné la mort de 11 personnes, soit 6 décès, tous de sexe masculin, sur le lieu même de la frappe. Un blessé transporté du lieu de la frappe au centre de santé intégrée de Tamou où il a rendu l'âme, soit au total 7 morts enterrés au cimetière de Tamou. La mission a découvert 2 corps sans vie de sexe masculin dans un puits, ce qui porte le nombre de personnes enterrées à Tamou à 9. L'autopsie et l'expertise médico-légale ont révélé que ces victimes sont mortes d'asphyxie. À l'hôpital national de Niamey, la mission a obtenu la liste de 25 blessés admis. Elle a été enregistrée malheureusement le décès du nommé Hamma Hamidou, âgé de 28 ans, le jour même de leur admission, et celui du nommé Ali Oumarou, âgé de 43 ans, le 31 octobre 2022, sans oublier les deux policiers lâchement assassinés par des terroristes le matin même du 24 octobre 2022.
Dès la nuit du 25 au 26 décembre, 6 hommes armés non identifiés sur 3 motos ont enlevé le véhicule d'un particulier selon Aliou Modi, maire de la commune rurale de Imana. Selon lui, ces hommes ont cherché à prendre les véhicules de la mairie et l'ambulance du centre de santé intégrée de Bonkoukou. On l'écoute au micro de Seydi Abdouine Ditane.
Dimanche, vers 9h30.
6 personnes armées à bord de 3 motos ont fait irruption dans la ville la nuit du dimanche aux environs de 21h30 entre les périodes de Maghrib et Isha. J'étais à la recherche des clés du véhicule de la mairie et de l'ambulance. Ils ont trouvé des gens à la mosquée qu'ils ont malmenés pour savoir si l'un d'eux a une des clés, sans succès. Après, ils ont continué au centre de santé intégré où ils ont trouvé une infirmière qu'ils ont aussi demandé. Elle a affirmé qu'elle n'a pas la clé de l'ambulance. Ils n'ont pas fait plus de 20 minutes là-bas. Et c'est en sortant qu'ils ont rencontré sur le goudron au niveau du Cassis un véhicule de type Highlander. Ils l'ont mis en joue avec leurs armes pour faire descendre le conducteur avant de partir avec son véhicule et disparaître dans la nature. Nous avons informé le préfet qui, à son tour, a alerté les forces de défense et de sécurité. Ils se sont mis à leur recherche.
Jusqu'à présent, je suis pas compté.
En bref, hier lundi, les forces armées nigériennes FAN ont annoncé avoir neutralisé plus de 40 terroristes lors des opérations menées dans la zone des trois frontières ainsi que dans la région de Diffa et près du lac Tchad. L'opération Emaboulé 2, entamée depuis plusieurs jours sur la frontière Nigéro-Burkinabé, a permis de dresser le bilan provisoire suivant. 92 motos ennemies saisies et détruites, 8 terroristes neutralisés. Il est à noter que 2 militaires ont trouvé la mort et 6 autres blessés lors des différentes opérations, souligne le bulletin des FAN en date du 26 décembre 2022. Hier, toujours a débuté à Dosso la réunion nationale d'évaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale de l'année 2022. Une occasion pour les experts de dresser une cartographie complète des zones et localités du Niger en insécurité alimentaire. Adamu Oumarou, au ministère de l'Action humanitaire, est au micro de Nana Hadiza Hassan.
D'ici 3 jours, plaise à Dieu, nous allons informer le gouvernement du nombre de communes en situation de déficit alimentaire, les communes devant recevoir l'aide alimentaire, car nous avons d'abord fait une réunion ici pour déterminer le nombre de personnes touchées par cette crise alimentaire. Nous avons enregistré environ 2 044 000 personnes qui, d'ici 3 à 4 mois, peuvent atteindre 2 080 000 personnes. Donc nous avons le nombre de personnes concernées. Il nous reste à déterminer leur localisation. Aussi, nous souhaitons d'abord de nos partenaires d'ici un appui franc et sincère, qu'ils nous indiquent les villages déficitaires sans parti pris, car ils ont tous les mêmes droits. Et si l'aide alimentaire arrive, que les chefs traditionnels, les maires et autres acteurs de la distribution soient justes, afin que les vivres soient remis à qui de droit, sans favoriser telle ou telle personne pour des raisons familiales ou autres.
Le ministère de la Santé a déclenché la semaine dernière une campagne de vaccination contre la rougeole sur l'ensemble du pays. La rougeole est une maladie que l'on contracte une seule fois dans sa vie et un vaccin est disponible. Combien de fois faudra-t-il se faire vacciner? Qui sont concernés par cette vaccination? Madame Ila Hadiza, responsable du centre de santé intégré de Bobiel, répond au micro de Zainab Abdou.
La rougeole se vit une seule fois dans la vie, mais deux fois le virus change. La vaccination contre la rougeole se fait deux fois. La première à 9 mois, la deuxième à 16 mois. La deuxième, c'est un rappel. Ici, on dit une campagne, c'est nationale. On te vaccine aujourd'hui, 2 semaines après, il y a campagne, il faut encore revacciner. Ici, au Niger, la vaccination qui s'est faite en rappel, c'est la rougeole seulement. Si on dit on vaccine les enfants de 6 mois, c'est qu'il y a une épidémie. Mais tant qu'on n'a pas signalé une épidémie, on ne peut pas vacciner les enfants de 6 mois. C'est de 9 mois à 59 mois. Je lance un appel à la population de nous faire sortir les enfants pour les faire vacciner afin de les protéger contre la rougeole.
Justement, par rapport à la rougeole et à la campagne nationale de vaccination entamée, notre correspondante à Dosso a rencontré quelques maires qui se réjouissent de cette vaccination de masse. On les écoute aussi au micro de Nana Hadiza Hassan.
Pour la vaccination de nos enfants, ils nous traitent bien ici. Ils nous ont donné des médicaments, d'autres contre le paludisme. Je les remercie pour ça. Aucun de mes enfants cette année n'est tombé malade du paludisme. Je lance un appel à mes voisins de bien accueillir les agents qui font des tours dans les quartiers pour nous offrir ces médicaments gratuitement alors que nous sommes censés les acheter.
Vraiment, les agents de santé nous ont bien accueillis. Mon enfant n'a même pas pleuré lorsqu'on lui a fait l'injection. Sinon, j'ai l'habitude de faire vacciner mes enfants. Dès qu'une campagne de vaccination est lancée, j'amène tous mes enfants. Aujourd'hui même, j'ai amené cet enfant à la consultation et ils m'ont dit qu'il y a une vaccination contre la rougeole qui est en cours. Donc, j'ai profité pour le faire vacciner.
Mon enfant a 2 ans. Il a reçu le vaccin contre la rougeole, l'albendazole et la vitamine A.
La deuxième édition de la rencontre culturelle des écoles de formation en agriculture et fac s'est ouverte hier après-midi à Zender. 9 écoles des 8 régions participent à cette rencontre de 4 jours. Elles compétiront dans 3 disciplines selon Goni Boulama Abdrahman, secrétaire général adjoint du ministère de la Culture. Il est au micro d'Ali Keita.
La rencontre de Zender est destinée justement à réunir les EFAC de toutes les régions pour compétir sur un certain nombre de disciplines, notamment le conte, le sketch, la photographie. Les objectifs stratégiques qui sont poursuivis pour l'organisation de ces rencontres, c'est d'arriver à l'amélioration du cadre pédagogique d'enseignement et d'apprentissage, l'amélioration des contenus pédagogiques et l'enseignement, le renforcement des capacités et l'amélioration des performances des enseignants eux-mêmes et des encadreurs, et le renforcement de la gouvernance des capacités de gestion et de pilotage du système éducatif en ce qui nous concerne. Mais en fait, c'est pour susciter la compétition entre les élèves, les préparer à compétir vers l'extérieur. Il se trouve qu'il y a beaucoup de compétitions qui sont organisées au niveau national et international, où nos candidats sont pour beaucoup des autodidactes, des artistes qui sont professionnels sur le terrain. Mais à partir du moment où nous sommes concernés par l'enseignement artistique, nous nous obligeons de préparer nos élèves à participer et éventuellement à remporter des prix lors des compétitions internationales, notamment les Jeux de la Francophonie.
Dès la partie magazine de cette édition, les autorités nationales, dans le souci de rendre l'éducation inclusive, ont adopté une loi qui permet aux enfants en situation de handicap d'aller à l'école. C'est ainsi, par exemple, que le Centre des initiatives et d'entraide sociale Skoupsi Gaksinei de Gaya a vu jour en 2019. Il a pour mission de sensibiliser les parents à inscrire et maintenir leurs enfants à l'école. Abdoulaye Vincent Rafiou, président de Skoupsi Gaksinei, est au micro de Balkis. Ahmed Sidi.
D'abord, tout est parti de moi parce que de temps en temps, je visitais l'école Kouarateji 2. J'ai un peu du mal à voir les enfants toujours confinés dans une salle de classe, sans épanouissement, ou même pour manger, ils sont confinés dans une salle de classe. Alors, j'avais un ami à moi, espagnol, qui est ici. Je lui ai un peu expliqué la situation et c'est à partir de là que le projet est né. On a créé l'association pour pouvoir soutenir ces enfants. C'est depuis octobre 2019 qu'on a commencé ici à Gaya. Nous sensibilisons les parents pour la scolarisation des enfants déficients visuels et nous prenons en charge aussi les enfants déficients visuels dans l'alimentation, l'achat de matériel spécialisé braille et la formation professionnelle. Actuellement, nous avons 15 enfants déficients visuels que nous prenons en charge et 4 sous que nous prenons aussi en charge avec un enseignant non-voyant de l'école Kouarateji que nous prenons aussi en charge.
Et comment se fait la prise en charge de ces enfants?
La prise en charge de ces enfants, c'est simple parce que d'ailleurs, c'est notre charisme. Donc, les enfants, le matin, les parents les amènent à l'école. Ils apprennent jusqu'à midi. À midi, ils descendent, ils viennent chez nous dans le centre. Ils connaissent tous le centre. Ils viennent manger. Il y a des matelas, ils se reposent. Et à 15h, il y a des gens qui s'occupent d'eux. Et on les fait retourner aussi à l'école. Et à 17h, les parents viennent les chercher pour retourner à la maison. Voilà. Sinon, pour le moment, nous sommes les seuls à soutenir les enfants. Et en plus de ça, à l'endroit des parents, j'aimerais lancer un appel de sensibilisation. Parce qu'il y a beaucoup de parents jusque-là qui ne comprennent pas que un handicapé aussi peut devenir quelque chose de main. Jusque-là, on en a connu des cas, on a fait des sensibilisations à Bana, à Bengou, on a vu des parents qui cachent les enfants. Ce n'est pas bon. On essaie de leur faire comprendre qu'on a eu des enseignants qui sont aveugles, qui sont dans le Niger, qui enseignent. Donc, même un non-voyant peut réussir encore sa vie. Et l'année passée, on a amené quelques enfants de Bengou ici, mais on a vu que ce n'était pas facile, vu la distance et tout. Donc, nous les avons d'abord laissés et nous pensons faire aussi une inclusion au niveau de Bengou. Et là, nous allons déployer une équipe de temps en temps qui va les rendre visite et leur apporter notre soutien.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. Tarnal Foudet Ahmed vous présentera le journal en tamashek. À 18h15, suivez le forum Espace Femmes en Hausa sur le thème « Violence exercée par les parents sur les enfants » dans une présentation de Rekia Harimi.